Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus vraiment adorer le Seigneur avec les chantres, Fanny et son équipe? J'aimerais simplement vous suivre parce que c'est à vous que Dieu donne le manteau de conduire. Et nous allons ensemble encore adorer le Seigneur avec ce chant qui nous rappelle la croix de Christ. Alléluia Jésus. À la croix je me prosterne, où ton sang et ton précieux sang coula pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pendant ce temps, pouvons-nous rappeler le sacrifice
Seigneur,
de Christ.
Seigneur, tu me cherches.
Rappelons-nous le sacrifice de Christ à la croix.
Tu me connais.
Et entrons en communion avec ses souffrances.
Et si je t'oublie.
Et par ainsi sa puissance.
Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence,
ta sainte présence,
elle m'environne,
elle m'environne
à chaque moment,
et fait qu'à chaque moment, Seigneur,
je sais,
je sache
que tu m'aimes,
que tu es toujours là.
Je
que
sais
je le sache, Seigneur,
que tu m'aimes.
Alléluia.
Que tu m'aimes.
Alors, si tu sais que le Seigneur t'aime réellement
je
ce matin,
sais,
si tu réalises la grandeur de l'amour de Christ, lève tes mains vers le ciel. Adore le roi de gloire et bénis-le. Dis en retour à Dieu que tu l'aimes toi aussi. Et demande à Dieu de remplir davantage ton cœur de son amour. Que le Saint-Esprit répande son amour dans ton cœur chaque jour. Afin que tu sois toujours capable d'aimer le Seigneur. Toujours capable d'aimer Dieu. Toujours capable d'aimer la présence de Dieu. Toujours capable d'aimer la parole de Dieu.
Je sais que tu m'aimes, Seigneur.
Alléluia.
Que tu m'aimes.
Alléluia.
Je sais
que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes.
Dieu vivant d'Israël,
je sais que tu m'aimes.
Je te bénis encore ce soir, ce matin,
je
pour ta présence, pour ton amour. Que ce message trouve encore la place dans nos cœurs et construise l'homme que tu veux que nous soyons, afin que nous puissions accomplir notre destinée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au groupe Louange. Merci pour le service, le sacerdoce. Merci pour le ministère des Lévites. Gloire à Dieu, vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous allons clôturer donc cette conférence sur le thème « Vaincre l'échec et accomplir sa destinée ». Nous sommes en train de réaliser que nous avons chacun pour sa part une destinée, que Dieu nous a créés avec une destinée et que personne ne peut dire qu'il n'a pas de destinée. Nous avons tous une destinée. Et la Bible déclare que alors que nous étions encore dans le ventre de notre mère, Dieu nous avait déjà donner une destinée. Il avait déjà écrit sur le livre de notre destinée tous les jours qui nous étaient prévus sur la terre, au minimum 120 ans. Et toutes les œuvres que nous devons accomplir sur la terre, qu'il a préparées d'avance pour nous, afin de pouvoir, en accomplissant ces œuvres, accomplir notre destinée. Et nous avons compris que ces œuvres, c'est simplement en fait l'ensemble des choses que Dieu veut que nous puissions faire. C'est pourquoi il nous donne des dons qui nous rendent capables d'accomplir ces œuvres. Et lorsque nous accomplissons ces œuvres, en fait, c'est l'ensemble de ces œuvres qui forment notre ministère. Alléluia. Et qu'il n'y a pas que donc 5 ministères seulement, mais il y a plusieurs ministères en fonction des œuvres que Dieu nous a demandées et a prévu que nous puissions accomplir sur la terre. La principale cause de l'échec dans la vie de l'homme, c'est le manque de clairvoyance au sujet de sa destinée. Lorsque nous ne voyons pas clair, nous n'avons pas de vision par rapport à notre destinée, nous ne savons pas où nous allons, alors nous connaissons l'échec. C'est donc qu'il est écrit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein, donc un peuple errant. Et donc il est important de comprendre ce que c'est la destinée. Et depuis vendredi, nous sommes en train de définir ce que c'est la destinée. Et chaque lettre de ce mot destinée nous enseigne sur la quintessence même de ce que Dieu entend par destinée. D comme don. Accomplir sa destinée, c'est être capable d'identifier ses dons. E comme extension. Accomplir sa destinée, c'est être capable de s'étendre, de s'élargir, d'élargir l'espace de sa tente, d'être capable de penser, de percevoir les choses comme Dieu les perçoit, d'avoir une vision, un objectif, un focus. S comme sphère. Accomplir sa destinée, c'est être capable de rentrer dans la sphère dans laquelle Dieu veut que nous puissions régner, notre sphère d'influence, notre domaine. Chaque roi a un domaine, vous savez, et nous sommes des personnes appelées à régner avec Dieu. Nous sommes des rois, nous sommes un peuple de rois, et chaque roi a un domaine. Quel est ton domaine? Est-ce que c'est l'informatique? Est-ce que ce sont les affaires? Est-ce que c'est le ministère de la parole? Est-ce que c'est le chant, la musique, le sport? Il y a tellement de domaines, et là nous avons dressé une liste, non exhaustive bien sûr, des différents domaines dans lesquels Dieu peut nous amener à influencer, en fonction des dons et des talents qu'il a déposés en nous. Et on a compris que chaque fois que nous comprenons ces choses, alors nous régnons, nous brillons, et que nous ne sommes pas obligés de tuer quelqu'un avant de régner. Nous pouvons tous régner ensemble dans la même sphère, dans le même domaine. Kaka n'avait pas besoin d'attendre que Zidane disparaisse pour régner. Ils régnaient ensemble. Ils règnent ensemble, même avec Ronaldinho, Romario dans la même équipe, ils règnent ensemble. Alléluia! Donc dans une église, on peut avoir plusieurs talents, plusieurs ministères, plusieurs compétences dans les mêmes domaines parfois. Il n'y a pas embouteillage. Il y a ton frère, il n'y a jamais embouteillage. Il y a complémentarité. Alléluia. Ensuite, nous avons vu T comme type de personnalité, comme tribu. Donc en étudiant les 12 tribus d'Israël, Dieu nous a permis d'identifier 12 personnalités bibliques qui peuvent nous aider à réaliser la personnalité que nous sommes en Dieu. Et le but ici n'était pas de nous focaliser sur un type de personnalité ou une tribu et dire je suis plutôt benjamite ou encore gadite, etc. Mais de comprendre dans chacune de ces tribus quelles sont les faiblesses et quelles sont les forces. Et donc travailler les faiblesses si on s'y reconnaît et bien sûr prendre les qualités, les forces pour construire la personnalité de l'homme de Dieu Dieu veut que nous puissions être afin d'être capable d'accomplir notre destinée sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec I comme identité, N comme nom, E comme épreuve, E comme excellence. Alléluia. I comme identité. Pourquoi parler d'identité alors que nous venons de parler de personnalité? Tout simplement parce qu'il y a une différence entre la personnalité et l'identité. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 27 à 28. Genèse, chapitre 32, versets 27 à 28. C'est Jacob qui se retrouve à Péniel. Et là, dans Genèse 32, versets 27 à 28, Dieu pose la question à Jacob. Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Ce qui signifie usurpateur, supplanteur, trompeur, tout ce qui est en heure et qui produit des heures, des leurs, des heurts et des leurs. Jacob ne sera plus ton nom, mais plutôt Israël, qui signifie prince. Quelqu'un qui a mené et qui est appelé à dominer, à régner. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Souvent, quand je lisais ce passage, dans mon esprit, je raisonnais dans le sens que Jacob avait lutté avec Dieu. Donc Jacob s'est battu avec Dieu. Qu'il y a eu un combat entre Jacob et Dieu. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir raisonné ainsi en lisant ce passage. Mais dans le cadre de cet enseignement, alors que je peux pas cet enseignement, le Seigneur a ouvert mes yeux pour me faire comprendre qu'en fait, ce n'était pas une lutte entre Jacob et Dieu. Et pour comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 4. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Il est écrit ceci, dans Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang et à la chair en luttant contre le péché. Jacob a lutté avec Dieu. Il y a une différence entre lutter avec et lutter contre. Dans ce passage de Genèse, il n'est pas dit que Jacob a lutté contre Dieu. Non. Il est dit que Jacob a lutté avec Dieu. Et la dernière phrase a une précision importante. Jacob a lutté contre Dieu et quand, non? Amen, 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 alléluia. Jacob a lutté avec Dieu et avec les hommes. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été trouvé vainqueur. Quand je lutte contre quelque chose, ça veut dire je suis pas pour cette chose. Ça veut dire qu'en fait, je me bats pour vaincre cette chose jusqu'à ce qu'effectivement, je prenne le dessus. Alléluia. Mais quand je lutte avec quelqu'un, cela voudrait dire qu'en fait, je suis participant avec la personne. Je forme équipe avec la personne. Alléluia. Donc, quand la Bible déclare que Jacob a lutté avec Dieu, cela voudrait dire que Jacob a mené un combat avec Dieu. Avec Dieu. Et il dit qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Jacob a lutté avec Dieu. Et l'expression lutter avec Dieu, lutter avec, en hébreu, signifie prendre part à. Donc si Jacob a lutté avec les hommes, cela voudrait dire que Jacob a pris part avec les hommes. Jacob signifie également homme. Jacob signifie humanité. En d'autres termes, Jacob, durant toute sa vie, a pris part à l'humanité, a participé aux œuvres de la chair, aux œuvres humaines. Il a participé à la nature humaine. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible attend de nous? Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, il est écrit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu attend de nous que nous soyons et que nous devenions participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui veut simplement signifier l'humanité. Alléluia! Donc, ce qui s'est passé à Peniel, c'était en fait un combat contre le péché. Jacob s'est rendu compte que il a participé à la nature humaine. Il a supplanté son frère Ésaü. Il a trompé. Et toute sa vie, il a trompé les gens. Il a trompé. Il a passé son temps à supplanter les gens, à tromper. C'est le genre de personne, quand il a trompé, il a réussi, il est content. Et pour lui, c'était un plaisir de tromper les gens. Il était vraiment devenu un expert en tromperie. Et il y a des gens comme ça. Ils s'y pèsent. Un jour, un pasteur nous rendait un témoignage. Il dit, il était choqué. Dans son église, il y a un homme qui était venu rendre témoignage. Il disait, il était déjà chrétien même dans l'église. Mais tant qu'il n'avait pas encore dépouillé, il ne s'était pas encore dépouillé du vieil homme dans sa vie, il continuait à tromper les hommes. Il continuait à tromper Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur le passage qui est écrit. Personne ne peut tromper Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et là, il s'est rendu compte que il ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu le voit. Il peut tromper les hommes, mais il ne peut pas tromper Dieu. Et tout ce qu'il faisait dans le secret, Dieu le voyait. Parce que Dieu voit une fourmi noire dans un monde noir, sur un caillou noir, habillé en noir. Si elle a des vêtements, bien sûr. Alléluia. Et ce jour, quelque chose est né dans son cœur. La crainte de Dieu. Et il a fait une repentance publique. Et il a avoué à tout le monde qu'il passait tout son temps à tromper. Il trompait le pasteur. Il trompait les frères en Christ. Quand il venait à l'église, en fait, il était quelqu'un qui vivait dans l'hypocrisie. Il faisait tout ce qu'il voulait dans la semaine. Il péchait. Et quand il arrivait à l'église, c'était le premier à arriver, toujours bien habillé, toujours bien propre, toujours serviable, toujours souriant. Et quand c'est la prière, il prie plus que tout le monde. Quand c'est l'adoration, il lève les mains. Alléluia. Et tout le monde le prenait pour un frère vraiment bien, spirituel. Mais en réalité, c'était un trompeur. Mais comme l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, alors tout le monde croyait réellement que c'était un frère bien. On serait quelque part, on aurait donné la communion sans confession. Trompeur. Trompeur au point que même dans les dons spirituels, il est manifesté. Il avait toutes les caractéristiques d'un homme spirituel. Et il pouvait tromper l'homme parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais il ne pouvait pas tromper Dieu parce que Dieu voit le cœur. Et le jour où Dieu a touché son cœur, la crainte est née, il a fait une repentance publique. Il a dit, je vous ai tous trompés, y compris le pasteur. Je vous demande pardon. Il dit, chaque fois que je faisais quelque chose et qu'on ne me surprenait pas, j'étais content. Quand j'ai fini de faire la chose, j'ai réussi, mon cœur était rempli de joie. Il dit, je trompais même ma femme. Et chaque fois que je le faisais, et qu'elle ne s'en apercevait pas, j'étais content. Ça, c'est un esprit de Jacob. Ça, c'était vraiment la nature humaine en lui. Et il a participé à ces choses. Il y a pris plaisir. Et Jacob était comme ça. Il trompait tout le monde. Il y prenait plaisir. Il était dedans. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jacob a lutté avec les hommes. Il a participé à la nature humaine. Il connaît ce que c'est la nature humaine. Il a connu le péché. Il a connu les tromperies. Il a connu les ruses. Il a connu la malice. Il a connu les vices. Il a connu toutes ces choses. Il a connu ça toute sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur à Peniel. Et quand il croise le Seigneur à Peniel, durant toute une nuit, il expérimente pour la première fois de sa vie, le goût de la nature divine. Et durant toute la nuit, il a participé à la nature divine. La gloire de Dieu est descendue à Peniel. L'atmosphère du ciel s'est installée à l'endroit où était Jacob. Et pour la première fois, Jacob a expérimenté une autre nature que la nature humaine dans laquelle il a toujours vécu. Et durant toute la nuit, Jacob a pu apprécier, il a eu le temps d'apprécier les bienfaits de cette nature. Et Jacob ne voulait plus sortir de là. Alors il s'est accroché à Dieu. Parce que l'ange ici, c'est Dieu qui était venu le visiter. Il s'est accroché à Dieu. Et lorsque le jour était sur le point de se lever, le temps, l'heure où les esprits s'en vont et laissent place aux hommes, l'ange a dit, il faut que je monte. Jacob a dit, non. Il est hors de question. Tant que je n'ai pas réellement été rassasié de ta nature, je ne te laisserai pas partir. Jacob ici était en train de prendre part à la nature divine. Il était en train d'expérimenter la nature divine. Et il est en train donc de lutter avec Dieu. Il participait à la nature divine. Et il a tenu Dieu. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu me transfères ta nature divine. Jusqu'à ce que tu changes ce que je suis moi et que tu mettes en moi ce que toi tu es. Voilà pourquoi Dieu dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera prince. On ne t'appellera plus homme, on t'appellera Dieu. Alléluia! Donc, Jacob avait une personnalité. Dieu vient et Dieu lui donne son identité à lui. Jacob, ici, c'était la personnalité de Jacob. Mais Israël, c'est l'identité que Dieu donne à Jacob. L'identité, c'est ce que Dieu nous a donné le jour où il nous a créés. La Bible dit qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance, afin que nous puissions dominer. Jacob ne pouvait pas dominer, devenir un prince, s'il ne s'était pas dépouillé de son vieil homme. Donc toutes les 12 tribus qu'on a vues hier, vous avez pu remarquer, ce sont des personnalités, c'est des types de personnalités. Et en fait, ce sont des caractéristiques humaines. Des caractéristiques humaines. C'est pour cela que vous avez vu qu'il y avait des traits de caractère positifs et des traits de caractère négatifs. Alléluia! Mais ce n'est pas ça votre identité divine. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Remarquez que Dieu ne donne pas à l'homme la domination et le règne avant d'avoir conféré sa nature et sa ressemblance. Il dit, créons l'homme d'abord à notre image, selon notre ressemblance. Alors, à ce moment, il sera capable de dominer. Donc, Jacob ne pouvait pas devenir prince Israël avant de s'être dépouillé de la nature humaine. Voilà pourquoi il a lutté avec Dieu, il a participé à cette nature et il a tenu jusqu'au bout, il a résisté jusqu'à la chair au sang pour qu'il puisse vaincre. Et la Bible déclare qu'à celui qui a vaincu, Dieu donne. Alléluia! Et quand on dit qu'il est sorti vainqueur, ça veut dire qu'il a gagné le combat contre la chair. Il a gagné le combat contre le péché. Il a résisté jusqu'à la chair au sang, luttant contre le péché. Et il est devenu quelqu'un né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, donc qui a revêtu la nature divine en lui. Alors en ce moment, il est rentré dans la sphère de prince. Il est rentré dans l'identité de prince. Et en ce moment-là, il a été capable maintenant de dominer. Il est devenu Israël. Il est devenu la nation sainte de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi on déclare que Israël est le peuple de Dieu. Oui, en fait, c'est l'image même de Dieu. C'est une nation sainte. Oui, c'est ça que Dieu veut faire de nous, des Israélites sur le plan spirituel, mais surtout des gens qui sont revêtus de la nature divine, de sorte que ce ne soit plus nous qui vivons, ce ne soit plus en fait la tribu de Dan qui vive, la tribu de Lévite qui vive, la tribu encore de Benjamin, etc. Non, ce n'est plus ma tribu. Ce ne sont plus en fait les gènes que j'ai reçus de mon père ou de ma mère qui vivent en moi. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Alléluia! Et quand Christ vient en moi, je rentre dans l'identité divine. Mais voyez-vous, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit ceci, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en Christ, on devient une nouvelle création. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu crée un nouvel homme. Mais dans ce passage, il n'est pas dit que le vieil homme meurt. On dit le vieil homme est passé. Les choses anciennes sont passées. On les considère comme étant en arrière, derrière nous. Pour nous porter vers ce qui est en avant, vers ce qui est nouveau, pour porter nos regards vers ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, en fait, Dieu ici nous appelle à avoir un détachement et à nous détourner des choses du passé. Mais il n'est pas dit que le vieil homme est mort. Non, on ne le tue pas. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'en vous, il y a toujours cette dualité. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 7, il dit en moi, il y a deux choses qui se passent. Il y a le mal que je ne veux pas faire, et qui m'attire toujours, et il y a le bien que je veux faire. Vous allez toujours avoir ces deux lois qui vont agir en vous. Même si vous êtes né de nouveau, un chrétien né de nouveau depuis 5 ans, 10 ans. Voyez-vous, Dieu ne tue jamais votre vieil homme. Dieu ne tue jamais votre personnalité. Mais Dieu crée un nouvel homme qu'il met à côté de vous. On l'appelle la nouvelle création. L'homme nouveau. Et donc du coup, il y a deux personnes. Il y a Jacob et il y a Israël. Et les deux habitent en vous. Alléluia! Comment est-ce que je peux illustrer ça? Je vais demander au frère Franck de venir. Alléluia! Il va venir. Je ne sais pas s'il y a un frère qui lui ressemble, mais ce n'est pas évident. Je vais demander à Grégory également de venir. Bon, comme vous êtes tous ensemble, okay, quelque part vous devez un peu, entre guillemets, vous ressembler. Ok. Donc, voyez-vous, retournez-vous, regardez l'assemblée. J'ai ici, alors imaginez-vous, j'ai ici Franck Kwame, c'est le vieil homme. Alléluia. Donc c'est Jacob. Ok? Bon, c'est pas lui, mais Jacob, supplanteur, usurpateur, etc. Okay. Jacob rencontre Christ. Mais Jacob ne va pas mourir. Quand Jacob rencontre Christ, alors Dieu crée quelqu'un d'autre en lui. Dieu crée Israël. Bon, il a un peu grandi. Il crée Israël. Et les deux, durant toute leur vie sur la terre, vont cohabiter, ils vont être ensemble. Donc il y a des moments, Jacob va vouloir encore tromper. Jacob voudra tricher. Jacob voudra voler. Ce qui, les choses qui n'appartiennent pas, il voudra les prendre. Maintenant, Israël à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un trompeur. Moi, j'aime la justice. J'aime la vérité. J'aime l'équité. Tenez-vous comme ça par la main. Le coude, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob va tirer. Israël va tirer. Allez-y. Jacob tire. Israël tire. Jacob tire. Israël tire. Et toute la vie, c'est comme ça. Jacob tire. Israël tire. C'est ce que la Bible appelle le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Alléluia. Maintenant, c'est une lutte toute notre vie. Jacob tire, Israël tire. Jacob tire, maintenant, qui va remporter le combat? Oui, c'est par la foi qu'on va remporter. Mais qui va remporter le combat? Non, c'est pas Israël. Non, c'est pas Dieu. C'est le plus fort. C'est le plus fort qui va remporter le combat. Si Jacob est plus fort, il remportera le combat. Alléluia. Maintenant, si Israël est plus fort, il remportera le combat. C'est le plus fort qui le remporte. Voilà pourquoi Jésus nous demande de fortifier Israël, de fortifier notre nouvel homme par la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne, par la louange, par l'adoration, par toutes sortes de disciplines spirituelles, pour que lui, il reste toujours fort. Parce qu'il n'est pas toujours dit qu'il va gagner chaque fois. Car lui aussi, il peut gagner. Lui n'est pas destiné à échouer. Il n'est pas destiné à l'échec. Mais si vous ne le fortifiez pas, vous allez le faire échouer dans votre vie. Et il ne vous servira à rien. Alléluia! Si vous nourrissez la chair, si vous nourrissez le vieil homme, si vous lui donnez à manger, tout ce qu'il veut, il prend, il deviendra plus fort. C'est pourquoi à l'église, il y a des chrétiens faibles et des chrétiens forts. Les chrétiens forts, ce sont ceux qui ont fait grandir Israël. Ils deviennent des princes, ils règnent, ils dominent. Mais les chrétiens faibles, c'est ce qui donne à manger à Jacob. En fait, le nouvel homme en eux est toujours bébé. Il est toujours faible. Le vieil homme, lui, il prend du poids. Il est robuste. Ils vont continuer à aimer Dieu. Ils vont aimer la prière. Ils viendront à l'église. Parce qu'en eux, il y a quand même un nouvel homme qui est né. Mais l'ancien, le vieil homme, est toujours fort. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes marchent selon leur personnalité et non selon leur identité. Acclamons le Seigneur. Merci les frères. Elles marchent selon leur personnalité et non selon leur identité. La personnalité nous permet d'être en contact avec l'humanité. Par contre, l'identité divine nous permet d'être en contact avec la divinité, avec la sphère divine, avec les choses de Dieu. Les gens qui règnent dans le monde règnent par leur personnalité. Ce qui attire les clients, c'est la personnalité d'un commercial. Ce qui attire les employeurs, c'est la personnalité, le profil de personnalité d'un candidat. Parce que l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux. L'homme regarde la personnalité. Donc la personnalité nous permet d'être en contact avec l'humanité, de vivre dans l'humanité. Donc c'est important la personnalité, comme je vous ai dit hier. Si vous voulez réussir dans vos affaires, dans l'entreprise, dans vos études, c'est important de connaître votre personnalité, d'avoir une personnalité. C'est important. Il faut apprendre à affirmer votre personnalité dans la société. C'est très, très important la personnalité. Parce qu'on reste quand même humain, avant tout. Mais, ce qui va vous permettre de régner sur le plan spirituel, c'est votre identité en Christ. Donc, votre personnalité se trouve dans votre humanité, mais votre identité se trouve dans votre divinité. Se trouve en Christ. Mon identité est en Christ. Alléluia. Donc, accomplir ma destinée, c'est apprendre aussi à me construire une identité en Christ. Avoir une identité divine. À pouvoir effectivement devenir un géant spirituel. Et quand je suis un géant spirituel, je suis capable de faire des choses là où mes limites, là où les limites de ma personnalité s'arrêtent, là commence effectivement l'action de mon identité divine. C'est là le surplus que Dieu m'apporte vis-à-vis des gens de ce monde. J'apporte quelque chose en plus. Là où il y a un informaticien à côté de moi qui a le même diplôme que moi, on sera différent, même si on a les mêmes caractéristiques, le même type de personnalité, on sera différent parce que moi j'ai une autre identité. Alléluia. Par contre, lui, son identité va être confondue à sa personnalité. Et quand j'ai réussi à me construire une identité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change mon nom. Dieu me donne un nom nouveau. Quand Dieu me donne une nouvelle identité, il me donne un nom nouveau. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que toutes les grandes personnalités que Dieu a appelées dans sa parole, les géants de la foi, à chaque fois, et pour la plupart, je voudrais dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils changeaient leur nom. Il dit à Jacob, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Il dit à Abraham, on t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Père d'une multitude. Sarah, on t'appellera plus Sarai, on t'appellera Sarah. Alléluia. Et chaque nom que Dieu te donne à une définition qui correspond à ta destinée. Abraham, père d'une multitude, pourquoi? Parce que c'est de lui que devaient naître les 12 tribus d'Israël. Jacob devient Israël, pourquoi? Parce que c'est en lui que s'accomplit la promesse que Dieu fait à Abraham. Alléluia! Dieu change ton nom, il te donne un nom nouveau. Et donc, ce nom, il va le rendre grand. Il va le rendre grand, et c'est ce qu'il dit. Abraham, dans Genèse, chapitre 12, verset 2. Genèse, chapitre 12, verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui rend nos noms grands. Mais comment ton nom peut être grand? Comment le nom de David est devenu grand? Parce qu'il a vaincu le géant Goliath. Quand il a vaincu le géant Goliath, là où tout le monde ne pouvait pas, lui il est arrivé. Il n'avait que 17 ans. Dieu rend ton nom grand quand tu fais des choses qui te distinguent du commun des mortels. Alléluia. Tu deviens grand, tu deviens un héros. Parce que si tu fais ce que tout le monde fait, tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais quand tu fais quelque chose de différent, alors tout le monde s'arrête et commence à se poser la question, mais qui a fait ça et qui est cette personne? Et en lisant le livre « Conquérir la sphère des rois », vous allez comprendre toute la quintessence de ce message sur le nom. Dieu te prend de la poussière de la terre, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, ce n'est pas le problème. Même si tu es né dans un village inconnu. En fait, le nom que Dieu te donne n'a aucun rapport avec l'endroit où tu es né. Dieu n'a pas eu besoin de considérer là où Jésus est né pour lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que si c'était ça le critère, Jésus n'aurait jamais reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que Jésus est né dans un endroit où il y avait les moutons. Il est né en même temps que les moutons. Vous comprenez? Et malgré cela, ça n'a pas empêché à Dieu de lever Jésus au-dessus de tout nom. Pourquoi? La Bible déclare parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, à la mort même de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, alléluia! Alléluia! Donc Dieu rend ton nom grand aussi longtemps que tu seras obéissant envers lui. Aussi longtemps que tu seras et que tu vivras dans la nature divine, dans cette nouvelle identité qu'il t'a donnée, aussi longtemps que tu vas supplanter, que tu vas neutraliser, que tu vas maîtriser le vieil homme. Parce que le vieil homme ne va jamais mourir, il est toujours là. Même quand on dit « faites mourir le vieil homme et ses œuvres », c'est une façon de parler. C'est une image pour dire en fait « neutralisez-le, maîtrisez-le, tenez-le assujetti afin qu'il ne vive pas en vous ». Et la Bible ainsi nous montre comment faire. Par la prière, par la parole de Dieu, par le jeûne, par toutes sortes de disciplines spirituelles, par toutes sortes de privations, par la contemplation, comme on l'a pris ici avec le frère Jean-Yves, en contemplant sa face, le reflet de son image rayonne sur nous. Et du coup, nous devenons comme lui, par l'adoration. Et quand nous accomplissons ces choses spirituelles, la Bible déclare en ce moment, nous neutralisons le vieil homme, nous neutralisons Jacob en nous. Et Jacob ne peut plus travailler. Jacob est maîtrisé, il est lié. Parce que pour dominer dans un royaume, la Bible déclare que tu ne peux pas rentrer dans une maison et vouloir piller la maison, vouloir dominer si tu n'as pas encore lié l'homme fort. Donc il faut lier l'homme fort en toi. Quand tu as lié l'homme fort, alors le nouvel homme peut agir librement. Et c'est le fait de lier l'homme fort que la Bible appelle faire mourir le vieil homme. Mais en réalité, le vieil homme est toujours là. Voilà pourquoi il rattrape toujours les uns les autres. Et quand j'ai réussi cela, alors je deviens obéissant à Dieu. Mon cœur est incliné vers les choses de Dieu. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible déclare que quand tu es dans cette dimension, Dieu te lève. Et il rend ton nom grand. Donc aussi longtemps que Christ va rayonner dans ta vie, ton nom deviendra grand. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas toi, mais c'est lui. Donc plus on voit Christ en toi, mais plus Christ va te lever pour qu'on le voit encore plus. C'est ce que Jean disait en d'autres termes quand il disait, il faut que moi je m'abaisse et que Christ croisse. Donc il faut que moi, Jacob, je disparaisse et que Israël, la nature divine, apparaisse. Donc c'est un processus. Il y en a qui ont fait disparaître le vieil homme à 30%. Donc, Christ rayonne dans leur vie à 30%. Ils seront élevés à 30%. Et leur nom sera connu à 30%. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a qui ont réussi à maîtriser l'homme fort à 50%. Et Christ rayonne dans leur vie à 50%. À 50%, on voit Christ au travers de leur vie. Et 50%, ils seront bénis, ils seront élevés, ils vont prospérer. C'est comme ça que Dieu, c'est la loi de la proportionnalité. C'est donnant, donnant. Dis à ton frère, Dieu est un grand businessman. Ça marche comme ça avec lui, alléluia. Il connaît tellement l'homme qu'il dit, si je lui donne déjà tout là, il ne viendra plus à l'église. Il ne viendra même plus prier. Donc si je lui donne les 100%, ce n'est pas bon. Avec lui, il faut négocier comme ça. Tu me donnes, je te donne. Acclamons le Seigneur. Et Dieu va rendre nos noms grands. Aussi longtemps que nous allons être obéissants. Je bénis Dieu parce que il y a des gens qui ont une grande destinée dans cette assemblée. Je vois des personnes qui seront de grands musiciens, des grands informaticiens, des grands chanteurs, et des gens qui seront des grands décorateurs, des grands designers. Je vois des gens qui seront des grands décorateurs. Alléluia! Des gens qui seront des grands restaurateurs. Qui c'est qui en appelle à la restauration ici? Parce que tout à l'heure, on va prier pour les gens. Alléluia! Je vois des grands hommes d'affaires. Dieu rendra ton nom grand. On est fatigué d'entendre toujours les noms des gens de ce monde, des stars. Vous savez, moi, je suis convaincu que Johnny Hallyday ou Michael Jackson avaient une grande destinée que Dieu avait donnée. Imaginez-vous, s'ils avaient laissé Dieu briller au travers d'eux. My God! Au lieu d'envoyer beaucoup et des milliers de personnes en enfer, c'est des milliers de personnes qui seraient converties au travers de leurs dents. Leur nom serait devenu grand en Dieu. Et ils auraient sauvé beaucoup de personnes. Que c'est triste quand vous écoutez certaines informations, quand vous faites certaines recherches et vous découvrez ce qui se passe. Comment les gens se bousculent, comment les gens meurent pour aller assister à un concert de Michael Jackson quand il était encore vivant. Et récemment, c'était Johnny Hallyday. Maintenant, tout le monde, c'est l'actualité partout. Mais c'était vraiment, on ne parlait que de Johnny Hallyday. Vous savez, je suis convaincu que si le diable n'avait pas perverti leurs dons, ils auraient été encore plus grands que là. Ils auraient encore vécu très longtemps pour certains. Parce que ça, c'est la destinée de Dieu pour votre vie. Alléluia. Je vois de grands médecins, de grands avocats. Je vois des grands hommes politiques au milieu de vous. Je le crois et je crois en votre appel. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut que tu sois une référence dans le monde entier. C'est-à-dire quand on regarde les annales, les générations futures, quand elles vont lire l'histoire, on verra ton nom marqué dessus. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a mené, dans ta sphère d'influence. Je sais que Dieu m'a appelé, entre autres, à la prédication, au ministère de la parole. Et j'ai béni mon nom parce que, j'ai béni son nom. Oh Seigneur, pardon. Je bénis son nom parce que chaque jour, je lui demande vraiment de m'aider à être toujours humble. Et plus je suis humble, plus je me rends compte que mon nom commence à devenir un peu grand quand même. Je suis parfois surpris de certaines choses. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, en toute modestie, dans le monde du ministère de la parole et du prophétique, dans plusieurs nations, quand on cite un prédicateur, on cite Sosène Mabwadi. Un jour, il y a une, je crois une maison d'édition ou je ne sais plus qui, publie sur un site internet, qui m'a écrit, ils m'ont dit, mais on voudrait avoir vos vidéos parce que les gens nous posent des questions. Mais pourquoi vous ne mettez pas en ligne des vidéos des grands hommes de Dieu tels que Benny Hinn, tels que Billy Graham, Sosthène Mabwadi? J'ai dit, oh my God. Comment ils me citent à côté de... Le Seigneur m'a dit, mais toi, c'est toi qui as une petite vision. Parce que si eux te voient au même rang qu'eux, et que toi, tu ne te vois pas comme eux, c'est que toi, tu n'as pas la foi. Et depuis ce jour, je me suis dit, j'ai ma place. J'ai pris ça comme une prophétie qui commence à se réaliser. Alléluia. Je bénis Dieu parce que dans le monde de la musique, la louange chrétienne aujourd'hui, quand on parle de la louange, on cite quand même Nina Lisette Mabwadi dans le monde. Hein. Et je bénis le Seigneur parce que je vois des prophéties qui commencent à s'accomplir sur l'évangile Victor. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au Gabon, bien-aimé. Parmi les grands hommes de Dieu, on le cite, et ce n'est qu'un début. Et ici en France, ça commence. Et je vois l'Europe, je vois l'Amérique, je vois l'Asie. C'est une référence qui est en herbe et en gestation. Vous savez, ici, on ne sait pas participer à la nature divine. Vous savez, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, je veux dire, quand on voit un talent monter, il y a des gens qui sont là. Vous savez, Dieu t'a donné un ministère dans les affaires. Tu regardes, tu es dans l'église, tu regardes un talent monter. Tu dis, my God. Quand tu écoutes un talent comme l'évangile Victor s'exprimer, prêcher, tu es là. Tu bouges la tête. Tu dis amen. Waouh, c'est formidable. Les autres ne s'arrêtent pas là. Les autres, ils sont bénis et ils se disent c'est un talent. C'est bien. Il parle bien. Il est convaincant. Il a l'onction. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un promoteur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent la personne. Ils disent, bon, écoutez, moi, je suis un homme d'affaires. Voilà. Je me propose d'organiser vos croisades, de les financer, de récupérer vos messages, de les mettre sur CD, sur DVD. Vous savez, j'ai une maison d'édition que je connais très bien, avec laquelle je collabore. Je vais les contacter et ils vont mettre vos messages sur le livre. Est-ce que ça vous arrange? Vous êtes serez d'accord avec ça? Bon, vous savez, pour être légal, on va faire un contrat. Alors, je vais vous promouvoir et à l'intérieur, j'ai un pourcentage de temps. C'est comme ça que ça se passe. La plupart des prédicateurs, des artistes, des chanteurs, ils ne sont pas promus eux-mêmes. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, son nom n'est pas devenu grand de lui-même. C'est Jean-Baptiste qui l'a introduit. Il était là le premier. Et il a dit à tout le monde qu'il écoutait. Parce que c'est lui qui avait la notoriété. C'est Jean-Baptiste qui avait la célébrité à cette époque. Donc, il n'y a que Jean-Baptiste qui pouvait l'introniser, qui pouvait le recommander. Et comme Jean-Baptiste était la star écoutée à l'époque, donc si Jean-Baptiste a dit quelque chose, tout le monde écoute. Et Jean-Baptiste a dit, regardez cet homme. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le, suivez-le. Et depuis ce jour, les gens l'ont suivi. Même les disciples Jean-Baptiste l'ont suivi. Mais il était Jésus. Il était Jésus. Il y a des talents dans cette église, mais il manque de promoteurs. Il y a des talents au milieu du peuple de Dieu. Il manque des gens qui mettent la main à la poche et qui misent. Dites qui misent. Qui c'est qui va miser sur l'évangéliste Victor? Je vais vous dire une chose. Les meilleurs joueurs de l'équipe de France ne sont pas dans la sélection, dans le 11 ou dans le 22. Là. Ils ne sont pas là-dedans. Les meilleurs joueurs de l'équipe de France, vous savez où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les quartiers. Ils sont dans les cités. Dans les petits clubs. Mais comme il n'y a personne pour les prendre et pour les propulser, leur nom n'est pas grand. Alléluia. Intercesseur, c'est votre ministère. Priez pour que les talents qui sont ici deviennent des noms grands. Vous avez un intérêt à cela. Non seulement sur le plan spirituel, parce que Dieu va vous bénir, mais également lorsque cette personne sera élevée, tu n'auras pas besoin de protocole pour la rencontrer. Ah, je vous assure. Mon frère, si tu me propulses, je te donne ma carte de visite. Non, ça c'est mon permis. Non. Qui c'est qui veut me promouvoir? Carte de visite. Alléluia. Toi, tu veux? Bon, on va prendre un entretien, on va signer un contrat. Alléluia. Non, mais c'est sérieux. On se dit, bon, on a l'église, on pense toujours à ce qui est spirituel, mais c'est tout ça. Le règne, c'est ça. Qui c'est qui va promouvoir Fanny? Ou tous les talents qui sont derrière elle, qui chantent avec elle, là, cette belle voix? Non, mon argent, c'est pour le KFC. C'est pour le McDonald's. Non. Quoi? Non, franchement. Alors, vous savez, vous connaissez l'histoire de Crabus Africanus? Alors, c'est l'histoire des crabes. Donc, ce sont des scientifiques qui ont décidé de faire des expériences avec les crabes de chaque continent. Ils ont pris chaque catégorie de crabes et ils ont mis dans des bocaux. Donc, il y avait 5 bocaux pour les 5 continents. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, ils ont observé le comportement de ces crabes au moment où ils sortent du bocal, lorsqu'on ouvre le bocal. Alors, ils ont commencé par les crabes de l'Amérique, parce qu'il y avait l'Amérique, il y avait l'Asie, il y avait l'Europe, il y avait l'Australie, il y avait l'Afrique. Enfin, donc, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique, quand ils ouvrent les crabes sont tout rangés. Ils sortent en ordre, rangés, mais comme des militaires. Et le scientifique dit, ah, ça c'est vraiment les Américains, ils aiment la guerre. Ils aiment être les premiers, les puissants. Donc il faut écraser tout le monde. Après, il y a les crabes asiatiques. On ouvre le bocal des crabes asiatiques, et les crabes asiatiques sortent. Quand ils sortent, ils sont tout disciplinés, silencieux. Il dit, ah, ça c'est vraiment des Asiatiques, ils sont toujours disciplinés. C'est une blague pas là-bas, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est waouh. Après, il y a l'Europe, donc ils sortent là et tout, avec les pattes sur la tête, comme ça. Ils disent, ça, c'est vraiment des penseurs, des cartésiens, c'est bien, je les reconnais. Bon, l'Australie, je ne sais plus trop, mais l'Océanie, autant pour moi, je ne sais plus trop, mais l'Afrique. dis à ton frère. Dis à ton frère, tu sais comment ça s'est passé? Quand le scientifique ouvre le bocal de l'Afrique, il attend. Aucune petite tête de crabe ne se pointe. Il dit, mais c'est pas possible. Ça fait au moins 2-3 minutes, j'attends, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils sont en retard. Ensuite, quelques temps plus tard, ils voient la tête d'un crabe qui commence à apparaître. Une petite tête. Et au même instant, il a juste eu le temps de remarquer, tout de suite, la tête, ça rentre. Ça redisparaît. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était comme ça, tac, tum, tac, tum. Il dit, mais il y a quelque chose qui se passe ici, qu'est-ce qu'il y a? Et quand il regarde comme ça, en fait, il se rend compte que chaque fois qu'il y a un qui veut émerger, un autre attrape la partie tire. Quand il y a un qui veut émerger, un autre saisit la partie tire. Il dit, oh, Crabus africanus. C'est de là qu'est né ce l'adage. Crabus africanus. Tu ne veux pas que l'autre émerge. Il faut qu'on reste là, nous tous, on doit mourir ensemble. Non, moi je ne suis pas né pour mourir avec toi. Non. Oh, dis à ton frère, je ne suis pas né pour mourir sur la terre comme ça. Je dois régner. Je dois dominer. Alléluia. Tu peux tout faire, je réussirai. Je vais m'en défaire au nom de Jésus. Je vais briser les liens en bas. Donc si j'étais un crabe avec eux à l'intérieur, quelqu'un m'attrape, coup de pied au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais un crabe l'est de nouveau, hein? Converti, hein? Revêtu de la nature divine, donc rempli cet esprit, roi de l'onction. Je devais combattre tous les crabes à l'intérieur. Au nom de Jésus. Couper tous les liens. Si c'est le Père qui m'attrape, je coupe les liens paternels. Sur le plan spirituel, bien sûr. Alléluia! Si c'est les liens de sorcellerie, je coupe au nom de Jésus. Moi, je dois émerger. Oh, je dois émerger au nom de Jésus. Je dois sortir du loup. Là où tout le monde n'a pas réussi, là où tout le monde ne veut pas que je réussisse, je dois sortir du lot. Je dois réussir au nom de Jésus. Personne ne pourra arrêter mes destinées. Personne ne pourra arrêter mes études. Personne ne pourra arrêter ma carrière professionnelle. Personne ne pourra arrêter mon don, mon ministère. Personne ne pourra arrêter les projets de Dieu sur ma vie, sur mon mariage, sur ma famille, sur ma vie sociale. Personne ne pourra me retenir. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Même si je suis né en Afrique, dans un fond fin fond de village rempli de sorciers, personne ne pourra me retenir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Je le dis pour toi, personne ne pourra te retenir. Alléluia. Même si tu es africain, la sorcellerie ne pourra pas te retenir. La jalousie des hommes ne pourra pas te retenir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça n'a pas pu retenir Joseph. Ça ne pourra pas te retenir au nom de Jésus. Oh, même quand tu auras l'impression qu'ils ont le dessus sur toi, ne t'inquiète pas. Ils ont vendu Joseph, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de propulser. Oh, ils étaient en train de propulser Joseph vers sa destinée. Parce que là où ils l'ont vendu, c'est là où il a été élevé. Il a été élevé par Dieu. Il est devenu gouverneur de l'Égypte, mais ils ne savaient pas qu'il le propulsait vers son règne. Alléluia! Même quand tu auras l'impression que les situations prennent le dessus sur toi, c'est pas grave. Sache que Dieu l'a permis pour te propulser. Je ne dis pas que pourtant je suis chrétien. Pourquoi tout d'un coup j'ai tant d'épreuves? Et nous passons donc au prochain point justement, épreuve. Pourquoi Seigneur? Mais parce que les épreuves font partie du chemin de ta destinée. Donc parfois, il y a des situations. Tu auras l'impression que la sorcellerie prend le dessus sur toi. Tu auras l'impression que les hommes te bloquent et les choses te bloquent, que tes études sont bloquées. Ce n'est qu'une impression. Parce que la réalité, c'est que Dieu est au contrôle de ta destinée. Et il permet les épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves vont te propulser vers ta destinée. En envoyant Joseph en prison, Potiphar ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Dieu a permis que Joseph aille en prison. Mais Joseph aurait pu se dire, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça, c'est une malédiction. Qu'est-ce que mon père Jacob a fait pour que notre famille soit maudite comme ça? Au point que moi, mes frères sont jaloux de moi, ils me vendent, je me retrouve chez Potiphar, je travaille pour lui, ses affaires prospèrent, mais je ne gagne rien à l'intérieur du cours. C'est même la même personne pour qui j'ai travaillé, à qui j'ai fait du bien, qui m'envoie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Seigneur, ce n'est pas possible. Quelle injustice on m'accuse d'avoir couché avec la femme de mon patron alors que ce n'est pas le cas. Je n'ai vu que des injustices, que des malheurs, que des tragédies. Et Joseph pouvait se plaindre et s'apitoyer sur son sort. Et là, dans sa prison, mais il n'a pas fait. Il considérait comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles il passait. Et c'est Jacques qui nous enseigne ça. Jacques chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Voyez-vous, les épreuves vont nous construire, vont nous bâtir, vont nous donner la personnalité, la maturité de la personne que Dieu veut que nous puissions être, du profil qui correspond à l'endroit où Dieu veut nous amener, à la sphère dans laquelle Dieu veut que nous puissions régner, dans le domaine où il veut que nous puissions influencer, aux choses qu'il veut que nous puissions faire. Voici l'intérêt des épreuves. Dieu va utiliser les épreuves et va permettre que les épreuves viennent et nous atteignent à cause d'un but, nous propulser vers notre destinée. Même les expériences les plus douloureuses que vous avez vécues sur la terre sont importantes dans votre destinée, utiles à votre destinée. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui. Pour ne pas citer les personnages bibliques, quand on parle d'Esther, Ruth, vous connaissez leurs histoires. Elles ont vécu des enfances difficiles, mais aujourd'hui elles deviennent des références du fait de leur histoire. Mais dans notre époque contemporaine, il y en a beaucoup. Il y a des gens, quand vous écoutez leurs témoignages, je connais des gens par exemple comme, qui est-ce que je pourrais citer ? Il y a des grands serviteurs de Dieu, des grands servantes de Dieu qui au départ étaient des personnes qui ont été maltraitées par leurs parents, qui ont été abandonnées même, qui ont été élevées par les services sociaux, qui ont vécu des situations très difficiles que même nous autres aujourd'hui on n'a pas connues dans notre vie. Mais aujourd'hui ça devient des grandes références. Et Dieu a utilisé ça. Vous voyez, une personne par exemple comme Joyce Meyer, c'est une personne, quand vous lisez son histoire, c'est une personne qui a connu des choses difficiles dans son enfance. Elle a même été violée à plusieurs reprises. Et pas par n'importe qui, par son père. Elle a connu la douleur, les meurtrissures, les blessures intérieures. Mais cette souffrance, qu'est-ce que ça produit? Aujourd'hui, elle enseigne sur la guérison intérieure. Quand vous écoutez les enseignements de Joyce Meyer sur la guérison intérieure, vous êtes restauré. Et des milliers de personnes viennent écouter. Des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont sous le joug des problèmes familiaux, des gens qui ont des problèmes psychologiques, ils viennent écouter. Et quand elles écoutent son message, les personnes sont guéries intérieurement. Elles sont libérées, elles sont délivrées. Mais il a fallu qu'elles vivent ça pour en arriver à là. En fait, les épreuves douloureuses qu'elle a connues construisaient simplement la servante de Dieu qu'elle devait être dans sa destinée. Et aujourd'hui, son message, quand elle enseigne là-dessus, ça n'a rien à voir avec toute personne qui peut enseigner sur, par exemple, les blessures intérieures, comment être guéri des blessures intérieures, comment être restauré, comment être délivré de la dépression, etc. Elle a vécu. Elle partage un vécu. Et aujourd'hui, elle devient une référence. Elle écrit des livres qui sont vendus partout. Et elle vit de ça. Elle passe dans les chaînes de télévision et partout. Et partout. Sur ce point, je vais terminer avec un exemple. Il y a un fils de pasteur qui est né sans bras ni pieds. Quand vous regardez la personne, c'est une boule de personne. Et on l'a montré partout dans les médias chrétiens. Il passe partout, il témoigne. Il dit que quand il est né, même à l'école du dimanche, il avait honte. À l'école, il avait honte des autres. Il ne savait pas comment faire. Parce que tout le monde le regardait, tout le monde le rejetait quasiment. Et pire encore, à l'église, tout le monde savait que c'était le fils du pasteur. Imaginez les commentaires. Oh là là. Franchement, là, il faut quand même essayer de savoir. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment eu un péché? Enfin, bref. Ça ressemble à des phénomènes de malédiction. Ah, il ne faut pas parler, c'est l'homme de Dieu. Il a souffert de tout ça. Le regard des gens, le rejet, le mépris. Il a grandi. Et dans toutes ces épreuves, dans toutes ces situation, expérience douloureuse, Dieu a bâti en lui un type de personnalité. Une personnalité de quelqu'un de battant, quelqu'un de conquérant, quelqu'un de vaillant, de téméraire, quelqu'un de consistant, d'endurant. Et cette personnalité l'a propulsé plus loin. Il a dit, ce n'est pas mon handicap qui m'a empêché de faire mes études. Il a fait ses études. Et c'est extraordinaire. Il n'a que comme des petits, ce n'est même pas des doigts, c'est des petits, comme des petits bouts de pâte, comme ça. Et avec ces petits bouts de pâte-là qui sont coincés comme ça, il a appris à taper à la machine. Il a appris à taper à l'ordinateur. Et devant son ordinateur, bien-aimé, il a fait des choses que nous autres aujourd'hui qui avons deux mains, deux pieds, n'avons jamais faites. Il a aujourd'hui au moins 5 masters. Il a écrit des livres. Il passe partout dans les télévisions. Il fait des campagnes d'évangélisation. Dieu l'utilise puissamment. Il est roi de l'onction de Dieu. Quand il tient une conférence, quand il tient une campagne d'évangélisation, une croisade, il y a des milliers de personnes qui sont là. On aligne les paralytiques comme ça devant lui. Les gens se lèvent de leur fauteuil roulant, un à un, un à un, un, les uns après les autres. Mais lui-même, il est là. C'est fort, hein? Dis à ton frère, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Et quand on l'interroge, il a appris à faire de la natation. On montre comment il va dans la piscine, il rentre dans l'eau, il sort. Comment tu vas nager, tu n'as pas les mains? Il y en a qui ont les mains, les pieds. Ils ne savent pas nager. Tu le jettes dans l'eau, il commence. Il nage dans la piscine, il nage. Mon Dieu, my God, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un phénomène extraordinaire là. C'est bizarre. Ça, c'est Dieu, ça. Et quand on l'interroge, lui-même, il dit, laissez-moi tranquille. Pourquoi vous vous apitoyez sur mon sort? Je suis bien. Je suis bien. Je ne sais même plus s'il est marié. Ça ne m'étonnerait même pas. S'il n'est pas marié, il sera marié. Parce qu'il va rencontrer une sœur qui a la vision. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Les épreuves, les situations difficiles dans la vie, même si elles sont douloureuses, contribuent à votre destinée. Même vos échecs, les erreurs que vous faites, bien-aimés, il faut apprendre de vos erreurs. Parce que l'erreur, c'est vrai, c'est un échec autant pour moi, mais l'échec n'est pas forcément la mort de quelqu'un. Non. Quand tu as connu l'échec, c'est pas forcément ta fin, c'est pas ta mort. Parce que l'échec peut devenir pour toi un tremplin pour la réussite. Parce que l'échec est un indicateur de réussite. Alors, quand j'étais à l'école de commerce, au Gabon, dans l'école de commerce où j'étais, il fallait un 12 de moyenne pour passer en classe supérieure. Mais vous étiez noté sur 20 hein, quand même. Hein. Et c'était difficile parce que quand je n'avais pas 12 de moyenne, il n'y avait pas le droit à redoublement, etc. C'était difficile les conditions. Et parfois, quand on rentrait, on allait manger au réfectoire, au restaurant, et les autres, ils venaient, ils n'avaient même plus l'appétit, ils rentraient simplement dans leur chambre pour aller dormir. Moi, j'arrivais, j'ai regardé mes notes, j'ai eu 1,50 sur 20 en mathématiques. Je disais déjà, gloire à Dieu, c'était beaucoup pour moi, en mathématiques, à l'époque. Et puis, j'avais une devise, j'avais une philosophie dans ma tête. Je me disais, c'est pas grave, 12 de moyenne, c'est quoi? 12 là, le chiffre 12, c'est l'addition de 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 15, 16. Et quand on fait la moyenne, coefficient, on tombe à 12. Donc, c'est pas parce que j'ai eu le 1 là, que je ne pourrais pas avoir un 12. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas le 1 que j'ai eu. C'est pas le résultat là sur une matière qui va conditionner ma destinée. Et j'ai eu 12. Je n'ai pas repris une seule classe jusqu'en quatrième année et j'étais sorti major de mon option, de ma promotion, avec les 1,50 en mathématiques. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ne limitez pas votre destinée. Ne limitez pas votre destinée, bien-aimés. Alléluia. Ne limitez pas votre destinée. Alléluia. Gardez la vision, gardez le focus. Oh my God. On va terminer avec le E. E comme excellence. Avant de passer à ça, vous devez savoir une chose. Hein. Je disais que l'échec, l'erreur est un indicateur de réussite. Ce que tu seras demain, c'est la somme de tout ce que tu as vécu aujourd'hui, hier, etc. Donc tout ce que tu apprends, la mathématique, la physique, tout ça, même si ce n'est pas ce que tu veux faire demain, sache que ça va te servir demain. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour autant maintenant que tu vas faire comme le pasteur Sosten à l'époque, je n'étais pas encore pasteur, okay, ne pas étudier les maths et puis tu te retrouves avec 1,50. Non, ce n'est pas un modèle. Hein. Okay, donnez-vous vraiment, faites le meilleur. Et c'est là qu'on arrive au dernier point, l'excellence. Hein, l'excellence, c'est le fait de cultiver l'excellence, c'est le fait de ne jamais s'arrêter dans nos satisfactions. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Oh, je me contente de... On a demandé 12 de moyenne, donc j'ai 12 de moyenne. Je vous dis, j'ai eu 12, mais en fait, j'avais plus que 12, moi. J'avais des moyennes de 13, de 14. Oui, c'est vrai, j'avais des moyennes de 13, de 14, malgré ce que j'avais. Mais je sais que si j'avais maximisé, j'avais travaillé sur la mathématique, sur les matières où je me disais que j'étais faible, j'aurais certainement eu peut-être des 16, des 17 de moyenne. Vous comprenez? Et je pense que je n'étais pas nul en maths, parce qu'en mathématiques financières, j'avais quand même des 17 et des 18. Donc, les profs n'avaient pas expliqué pourquoi, en mathématiques générales, j'avais des mauvaises notes. Quelque part, en fait, il y avait un blocage simplement en moi. Il y avait une limite à déplacer. Alléluia! Et beaucoup d'étudiants sont comme ça ici, présents. Je suis faible en ceci, je suis faible en cela. Qui t'a dit ça? Lorsque tu es né, Dieu a déposé en toi, dans ta destinée, la semence de l'excellence. Et quand tu lis Hébreux chapitre 1, verset 4, tu vas noter la référence, je lirai pour toi. Hébreux chapitre 1, verset 4, il est écrit, il est dit ceci, que Jésus est devenu Jésus, le Fils de Dieu, est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il nous donne son nom. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est excellent. Jésus s'appelle excellent. Donc quand on est né de nouveau, okay, on porte son nom sur nous. Son nom, c'est excellence. Et en nous, nous avons sa marque sur notre front. On est destiné à réussir. On est destiné à l'excellence. Donc, même si j'ai eu un 12, je peux encore faire mieux. Ce n'est pas parce qu'à l'école, on me demande un 10 de moyenne que je vais me contenter de me battre pour avoir un 10. Ça, c'est la médiocrité. Je dois chercher l'excellence. Je ne dois jamais raisonner en termes de « je suis fort en ceci, je suis faible en cela ». Non. Ça n'existe pas dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit durant cette conférence, ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est descendu sur Bezalel, qui leur a donné la possibilité de faire toutes sortes d'ouvrages. Donc quand tu as le Saint-Esprit sur toi, tu peux être fort dans toutes les matières. Tu peux être fort en mathématiques, tu peux être fort en physique, en biologie et en tout, dans toutes les matières. Même si tu as 28 matières, 30 matières, tu es capable de les maîtriser toutes avec l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire une chose. Généralement, quand on étudie une matière, en fait, on veut avoir les connaissances. Il ne faut pas étudier seulement pour avoir la connaissance. Il faut étudier pour comprendre la matière. Il faut rentrer dans la matière. Comme si en réalité, c'est toi qui avais même inventé cette matière. De sorte que même quand tu lis le cours, tu te projettes déjà même au-delà du cours. Il y a comme quelque chose qui t'enseigne plus que ce qui est écrit. C'est la preuve que tu es dans la matière. Et toi-même, au-delà de ce que tu lis, que tu acquiers comme connaissance, tu peux même créer. À partir de là, tu peux créer d'autres choses. Quand tu étudies dans cette démarche-là, tu ne peux que réussir. Mais quand tu étudies pour emmagasiner des connaissances, des bouquins, etc., et les restituer, tu ne peux pas aller loin. Tu peux maîtriser. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la capacité de maîtriser ça ainsi. Il va trouver l'intelligence. On appelle ça l'intelligence divine. On appelle ça en grec l'épignosis. Il faut travailler à l'école avec excellence. Il faut travailler dans ton emploi, dans ton boulot, avec excellence. Il faut travailler à l'église avec excellence. Bien aimé, quand vous venez à l'église, vous regardez la salle, on essaie de faire au mieux, du mieux que possible. Mais si tu as de l'argent, mets de l'argent pour que vraiment la maison de Dieu soit tenue dans l'excellence. Quand tu écoutes, en fait, tu les sons vraiment, ça te dérange parce que ça te fait mal aux oreilles. Tu dis, c'est pas possible, c'est mal réglé. Rapprochez-vous de Michael Lanois, de son équipe. Et puis, posez la question, mais pourquoi dans chaque fois qu'on fait les réunions, le son est comme ça? Pourquoi? Il va vous dire, mais en fait, on essaie de faire de notre mieux et il y a un problème avec les enceintes, il y a un problème avec les retours, il y a un problème à ton niveau. Donc, bon, on fait avec les moyens du bord, on ne peut pas faire autrement. Et là, Dieu peut te toucher. Et si tu as les moyens, tu peux mettre les moyens pour qu'on ait des meilleurs outils et qu'on ait un son d'excellence. Comme ça, quand les chants se mettent ici et qu'ils chantent, leur talent sort. Parce que parfois, il y a des voix qui ne ressortent pas à cause de la qualité du micro. Tu es là, tu dis, mais la soeur, oh la soeur là, vraiment, elle nous voit, mais ce n'est pas sa voix, c'est le micro. Parce que si tu l'écoutes à elle seule, sa voix est magnifique. Mais le micro est mauvais, donc ça étouffe sa voix. Mais elle fait avec. Quand on vous dit travailler à l'église, l'église n'est pas seulement un endroit où on vient prier. L'église, c'est un centre d'épanouissement spirituel, oui, mais aussi c'est un centre de développement de compétences. Beaucoup de personnes se sont orientées dans leur carrière, dans leurs études, grâce à ce qu'ils ont fait à l'église. Ils ont découvert un don, un talent à l'église. Et à partir de là, ils ont développé ça, et ils ont eu des formations après, et ils sont devenus quelqu'un dans la société. Ou d'autres encore, c'est une continuité de ce qu'ils font à l'école, ce qu'ils font au travail, ils viennent parfaire ça. Et du coup, l'église devient pour eux non seulement un centre de développement de compétences. Voyez le micro. Il faut changer les piles à chaque fois. L'autonomie n'est pas suffisante. J'ai parlé 1h15 déjà, ça y est, c'est fini. Ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un veut acheter un bon micro en église? Un vrai. Un micro, hein? My wife. Micro casque là, hein? Ça coûte pas cher, hein? Vers les 800 euros seulement, 1000 euros. Il y a ton frère Excellence. Tu regardes le pasteur en train de prêcher, tu dis, ah, son costume là est bien, mais. Bon, quand même, à son niveau là, il peut avoir ça. Il y a un homme de Dieu qui prêchait un bon message, comme le mien, comme ça. Bah, attends, franchement. Si moi-même je ne me félicite pas, qui va me féliciter? Attends. Si je ne suis pas conscient de ce que Dieu m'a donné, quelque part, vraiment, je me sous-estime quand même. Hein. Bon, je ne vais pas me surestimer aussi. Alléluia. Mais c'est vrai qu'il écoutait un bon message, il s'est dit, mais mon Dieu. Et quand il regarde la chaussure de l'homme de Dieu, il dit, quoi? Un message aussi puissant, aussi profond. Il a une chaussure qui baille presque. Et il est devant des centaines de personnes, mon Dieu. Il est là, il regarde. Il était touché. À la fin, comme ça, les gens disaient, ah, oh, quel beau message. Oh, homme de Dieu, sois béni vraiment, que ton ministère prospère. Ça va prospérer avec quoi? Juste les paroles. Hein? Mais lui, il a agi. Il a mis la main à la poche. Il a fait un chèque. Il a offert 4 paires de chaussures. Il vient avec moi. Ils sont allés dans un endroit acheter des chaussures. Il a choisi, mais pas n'importe quoi, bien aimé. La marque. Lui-même, quand il s'est présenté sur l'estrade, parce qu'il y avait, c'était une conférence, le jour suivant, quand il est venu sur les stades, il a senti qu'il y avait une autre onction. Il sentait qu'il y a quelque chose dans ses pieds. Ouh! Et il entend le verset qui dit, il rend ses pieds semblables à ceux de biche. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il dit, l'onction est là. Quand il fait comme ça, oh, l'onction. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dites, excellence. Excellence. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lève-nous, nous allons prier. Merci Seigneur. Dis à ton frère, excellence. La mentalité de l'excellence. Quand tu viens à l'église, ne viens pas avec une mentalité de médiocrité. Viens excellemment habillé. Viens, quand tu chantes, chante excellemment. Quand tu joues à ton instrument, joue avec excellence. Fais-toi avec excellence. Alléluia. Fais-toi avec excellence. L'excellence fait partie de ta destinée. Parce que la semence de l'excellence est en toi. Oh, saisis la portée de ce message. Dieu veut te propulser vers ta destinée. Et si tu le crois, dis avec moi, destinée. Oh, destinée. Destinée, destinée, destinée. Destinée par l'éclosion de mes dons. Destinée par ma capacité à étendre, à s'élargir. Destinée, Seigneur, par ma capacité à voir plus loin que le bout de mon nez. Oh, destinée. Destinée dans ma capacité à intégrer ma sphère d'influence et à régner avec toi. Destinée, Seigneur, dans ma capacité à identifier le type de personnalité que tu veux que je sois. Destinée, Seigneur. Destinée dans ma capacité à supplanter l'homme naturel et à revêtir la nature divine. Destinée, Seigneur, dans ma capacité à te laisser me lever et me donner un nom, un grand nom. Destinée dans ma capacité à vaincre les épreuves, à transformer les circonstances difficiles en opportunités d'émergence dans la vie. Destinée dans ma capacité à cultiver l'excellence dans tout ce que je fais. Oh oui, destiné. Oh oui, destiné. Destiné, 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 destiné. J'aimerais que vous puissiez lever vos mains vers le ciel de Dieu. J'aimerais prier pour vous. Je sais que